d'ailleurs de l'ombre, présenté par Simon Bulbaudin et réalisé par Thomas Yayani. On parle des métiers du quotidien tous les derniers lundis du mois à 18h. Et c'est sur Radio Campus Paris.
Ce nouvel épisode de Travailleurs de l'ombre, l'émission qui parle des métiers les plus essentiels à la société, mais dont on ne parle pas assez. Un troisième épisode consacré cette fois au métier de conducteur à la Régie autonome des transports parisiens, plus connu sous le nom de RATP. Pour en parler avec nous, je reçois en plateau Céline Malaisé. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseillère régionale d'Île-de-France, présidente du groupe d'opposition La Gauche communiste, écologiste et citoyenne. Avec nous aussi aujourd'hui Arnaud Moclet. Bonjour.
Bonjour.
Conducteur de métro sur la ligne 6 à Paris et secrétaire général à la CGT Ferré Métro RER. Alors, pour commencer, Céline Malaisé, si vous pouviez nous expliquer brièvement comment fonctionnent les transports en Île-de-France, que nos auditeurs comprennent bien la différence, par exemple, entre Île-de-France Mobilité et la RATP.
Alors, Île-de-France Mobilité est l'autorité organisatrice des mobilités en Île-de-France. Donc c'est elle, en fait, qui donne les ordres, voilà, pour simplifier. Cette autorité organisatrice est dirigée par la majorité régionale. Donc ça dépend, en fait, du résultat à l'élection régionale. Les prochaines sont en 2028. Les précédentes étaient en 2021. Donc c'est Valérie Pécresse qui préside aujourd'hui Île-de-France Mobilité. Et pour opérer les transports, tous les modes confondus, en fait, elle a des opérateurs de transport, ce qui fait que la RATP est un des opérateurs de transport qui, dans une relation contractuelle avec Île-de-France Mobilité, finalement produit de l'offre de bus, de l'offre de métro, de l'offre de RER. Et il y en a d'autres, des opérateurs de transport. Par exemple, il y a la SNCF pour les Transiliens, pour aussi certaines lignes de RER. Et puis en Grande Couronne, les bus ont plusieurs autres opérateurs de transport qui sont des opérateurs de transport, eux, privés, ce qu'on a appelé très longtemps le réseau Optile. Donc aujourd'hui, vous avez Keolis, Transdev, etc.
Alors, on va tout de suite écouter un extrait d'une interview que nous avons réalisée avec Martin Thibault, enseignant-chercheur en sociologie qui a travaillé sur la RATP. Il nous parle du métier de conducteur de métro.
C'est un métier qui est difficile physiquement, qui est un métier qui est assez répétitif, qui est un métier qui est soumis à des horaires particulièrement compliqués, avec des prises de service très tôt le matin et qui finissent tard le soir, qui sont liées à l'exigence de service public. Or, ce qu'on demande aujourd'hui, qui est une sorte de grand écart imposé, hein, c'est à la fois de maintenir des exigences de service public en termes de qualité de service, en termes d'efficacité du réseau, et en même temps dans des conditions matérielles de plus en plus difficiles, avec des temps de repos qui sont rognés, beaucoup moins de temps entre les prises de service, qui font que les conditions s'exercent de manière beaucoup plus compliquée que précédemment. Les conditions de travail aujourd'hui dans l'entreprise, globalement, mais c'est vrai également pour les conducteurs, n'ont pas grand-chose à voir avec ce qu'elles étaient il y a encore 20 ou 25 ans. Et ça pénalise nettement le corps, la manière de l'exercer, les difficultés physiques qui pèsent durablement sur les agents. Alors qu'on vient de repousser l'âge de départ à la retraite, on se rend compte que ça va être de plus en plus difficile de vieillir dans ces métiers-là, qui sont des métiers qui restent marqués par beaucoup d'attributs du travail ouvrier. C'est des métiers avec des postures debout, c'est des métiers difficiles, c'est des métiers répétitifs et c'est des métiers qui usent le corps dans le temps.
Arnaud Moclet, ce que dit Martin Thibault, c'est ce que vous vivez au quotidien ?
Oui, tout à fait. Il a très très bien résumé la situation. En fait, depuis 25 ans, on va dire, par exemple, hein, les matériels s'améliorent, mais la productivité et la production augmentent. Donc, ce qu'on aurait pu gagner en confort de travail par une amélioration du matériel se retrouve détérioré par un management difficile, des conditions de travail difficiles, des conditions d'exploitation difficiles, qui sont liées à divers facteurs. Hein. On y reviendra peut-être plus tard. Mais, en plus, une chose n'a pas changé, c'est les horaires. Voilà. Les matins très tôt, les soirées, le travail le week-end, le travail sous tunnel aussi. Ça, c'est très très important, puisque les lignes totalement souterraines, l'agent rentre faire son service, il en ressort 7h, 7h30 après, il n'a pas vu une seule fois la lumière du jour. Et sur les périodes automnales, hivernales, on peut imaginer ce que ça peut faire sur l'organisme, le psychique. Et il a raison sur le côté ouvrier de la tâche, puisqu'en fait, le métro, c'est notre machine-outil. Voilà, on se met sur notre poste de travail et ensuite on conduit notre métro avec effectivement des tâches répétitives, puisque à chaque station on reproduit exactement les mêmes gestes, la même attention, et donc cette attention qui doit être constante, puisque tout peut arriver, que ce soit en interstation, en arrivée en station, au moment de l'échange voyageur, etc., etc.
Céline Malaisé, ça se passe comment d'un point de vue décisionnel à la région, au conseil régional, par rapport au transport public ?
Alors, Île-de-France Mobilité contractualise, c'est-à-dire fait signer des contrats à la fois en termes de productivité et puis aussi avec une enveloppe financière pour les opérateurs de transport. Donc la RATP, en ce moment, il est en train d'être renégocié le contrat entre Île-de-France Mobilité et la RATP, qui devrait être incessamment sous peu rendu public. Et donc, l'idée pour Île-de-France Mobilité, c'est en ce moment plutôt de pousser à la productivité. Et comme on sait que 70% du coût de fonctionnement des transports, finalement, ça repose sur la masse salariale, évidemment, ça a des conséquences sur les conditions de travail. Pour que nos auditeurs et nos auditrices maîtrisent bien, c'est 100 000 agents des transports en Île-de-France dont on parle. Alors dans le métro, c'est pas assez 100 000, mais par exemple sur les bus de la RATP, c'est 19 000 agents dont on parle. Donc il y a des métiers de la conduite et puis il y a aussi les métiers de la maintenance. Et tout est poussé à ce que le taux de productivité soit augmenté, souvent au détriment du service public rendu aux voyageurs et évidemment très souvent aussi finalement au détriment des conditions de travail des agents des transports.
Et est-ce que, Céline Malaisé, ça peut être un outil, je suppose que ça peut être un outil de querelle politique, mais aussi de démagogie, les transports publics ?
Oui, c'est très souvent, en fait, comme c'est un sujet qui est un sujet complexe, comme beaucoup de sujets de société, en réalité, quand on regarde les choses par le petit bout de la lorgnette, on peut faire des grandes annonces du genre la révolution des transports. Valérie Pécresse avait promis la révolution des transports. Je pense que tous les usagers des transports en Île-de-France se rendent compte que depuis quasiment, depuis 2015, 10 ans, où elle est à la tête de la région, la révolution des transports est plutôt une révolution qui ne va pas du tout dans le sens du progrès. Je vous donne un chiffre, par exemple, pour les usagers depuis 2022, c'est 150 euros de plus parce que Île-de-France Mobilité aussi décide des tarifs des transports pour les usagers, 150 euros de plus par an pour quelqu'un qui a le pass Navigo. Donc oui, c'est de la démagogie et en fait, ça demande du temps pour comprendre à la fois la chaîne des décisions. Voilà, parce que la première question que vous m'avez posée, comment ça se passe ? Pour comprendre ça, pour comprendre aussi que le choix politique a des conséquences en termes de conditions de travail des agents, en termes de conditions de transport des usagers, et que en ce moment, on est dans une période de grand chambardement, en fait, sur les transports. Alors, c'est peut-être ça que la présidente de région voulait appeler la révolution, mais moi, j'appelle plutôt ça une contre-révolution. Donc, c'est un sujet éminemment politique. C'est un sujet en plus politique parce que c'est quelque chose qui est sans centrale dans la vie quotidienne. Quand on a une galère de transport le matin, le soir et que c'est répétitif, les cinq jours où on va travailler ou on n'arrive pas à arriver à temps pour aller chercher les enfants, etc. Évidemment, c'est quelque chose qui pèse sur la vie quotidienne. Il y a un baromètre qui est sorti il y a quelques jours qui montrait que la dégradation des transports en commun en Île-de-France avait une conséquence sur le moral en fait, des Franciliens. Et souvent, quand on interroge aussi les Franciliens sur leurs raisons pour lesquelles ils souhaiteraient quitter la région, eh bien, en top des raisons, on a évidemment la question du transport, parce que c'est du temps qui est long pour les Franciliens. Évidemment, quand ça marche moins bien, eh bien, c'est quelque chose qui est beaucoup plus pesant. Et quand ça marche bien, par contre, c'est quelque chose qui pourrait faciliter la vie, plutôt qu'être au volant de sa voiture.
Eh bien, on va en parler, hein, parce qu'Arnaud Mauclet, l'été dernier, à Paris, il y a eu les Jeux Olympiques, et il s'est avéré que les transports en commun fonctionnait parfaitement, surtout en comparaison à ce qu'on connaît depuis la sortie du Covid. Alors, pourriez-vous revenir sur ces différentes situations et comment les expliquez-vous ?
Alors, pour les Jeux Olympiques, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu vraiment un plan de déploiement, premièrement au niveau de la maintenance, avec énormément de maintenance préventive, puisqu'en fait, à l'RATP, il y a la maintenance préventive pour éviter les pannes, les casses, et la maintenance curative. Donc, il y a eu un énorme effort fait sur la maintenance préventive. Ensuite, il y a eu un surplus de personnel, alors non pas du fait d'embauche, mais du fait de fractionnement de congés, de restrictions de congés annuels, d'interdiction de poser plus de 3 semaines, par exemple. Voilà. Donc tout ça a fait que, en plus, évidemment, tous les renforts possibles et imaginables de sociétés privées, d'emplois de jobs étudiants qui sont venus renforcer, les fameux gilets verts, etc., etc., et le fait qu'il y a eu du monde, mais pas tant que ça, en fait, dans les transports, puisque beaucoup de Parisiens avaient envisagé de quitter Paris, ça fait que ça a très très bien fonctionné. Et dès septembre, en fait, patatras, les lignes ont commencé à tomber en panne, les rames à tomber en panne, parce que tous les agents de maintenance qui avaient bossé dur avant, il fallait aussi qu'ils soient en congé. Et la RATP a repris ses vieilles habitudes, puisqu'on parlait tout à l'heure de la productivité demandée par EDFM. À cette productivité se rajoute une productivité interne pour dégager une marge financière au niveau de la RATP qui se pense groupe capitaliste depuis quelques années. Et cet argent lui permet de réinjecter dans des filades, d'acheter à l'étranger, etc., etc. Donc voilà un peu pourquoi il y a eu ce moment presque de bonheur, on va dire. Mais qui a été artificiel, fabriqué, et il n'y a pas eu un effort maintenu tout du long. Et rapidement, les conditions de voyage se sont dégradées. Et comme on a coutume de dire, les conditions de transport dégradées, les usagers les subissent, mais en fait, les conditions de transport, c'est nos conditions de travail. Donc, ce que subissent les usagers, en fait, nous, on le subit de plein fouet aussi. Puisque c'est notre travail qui se retrouve dégradé.
En revenant à ça, Arnaud Mauclet, on entend souvent des histoires, des annonces comme malaise voyageur, des incidents. Alors ça, pour améliorer le confort des usagers, comment on peut faire pour réduire ce nombre d'incidents ?
Alors, pour tout ce qui est cause voyageur, on ne pourra jamais tout balayer. Là, je me suis permis, j'ai ramené quelques chiffres du tableau de bord du premier trimestre 2025 du métro. Sur le premier trimestre, c'est 386 millions de voyages réalisés sur notre réseau. Donc, voilà, 386 millions. Donc, forcément, il y a des malaises. Forcément, peut y avoir un bagage oublié, etc. Mais j'ai ramené aussi les causes de tours perdus. Voilà. Et sur ces causes de tours perdus, donc, il y en a 6810, c'est cause voyageurs. D'accord ? Et il y en a quand même 4309, c'est par manque d'agent de conduite. Voilà. 1652 pour MRF, c'est-à-dire ça, c'est la maintenance. À un moment donné, le train n'était pas bon, mauvaise réparation, train non disponible. Et 2996 pour MTS. Donc en fait, il y a plus de causes internes de problématiques que de causes externes. Et forcément, les transports sont dégradés, on est plus à même d'avoir un bagage oublié, parce que plus de monde, on stresse, plus à même d'avoir un malaise. Voilà. Donc, déjà, un investissement fort dans les infrastructures, la maintenance, ça, c'est vraiment la base, j'ai envie de dire. Et ensuite, des personnels en nombre suffisant pour assurer le service public. Voilà. Mais il faut vraiment de l'investissement à tous les niveaux.
Céline Malaisé, pour revenir un peu à ces galères que vivent les usagers, vous m'avez dit que vous avez créé le collectif Stop Galère. Si vous pouviez revenir dessus, nous expliquer un peu ce que vous faites.
Donc, à la sortie du Covid, comme conseillère régionale, on voyait les transports qui étaient en train de s'effondrer. Voilà. Alors, c'est aussi pour des raisons politiques. À la sortie du Covid, Île-de-France Mobilité refuse, en fait, de revenir à une offre à 100%. C'est un refus politique au départ. Ce qui fait, en fait, qu'il y a eu un décalage aussi dans les recrutements, un décalage dans les formations. Et donc, les choses se sont enchaînées. Donc, l'idée, en créant le collectif Stop Galère, était de refuser de voir l'effondrement des transports. Nous avons un réseau extrêmement étendu en Île-de-France, un des plus performants au monde, si on compare, même si on s'en plaint au quotidien, mais c'est quand même un des plus performants. Et donc, de rassembler tous ceux qui veulent défendre ce réseau public des transports en commun, qui considèrent aussi que c'est un défi pour l'avenir, parce que c'est par là aussi que se passe la transition écologique. Donc, de rassembler, alors, évidemment, des groupes politiques à la région qui sont plutôt dans l'opposition, donc toute la gauche, gauche régionale s'est rassemblée, mais aussi quelque chose d'assez particulier qui avait jamais été fait, en fait, sur ces questions de transport, d'aller voir les agents, d'aller voir leurs représentants syndicaux, leurs organisations syndicales, et l'URIF, donc l'Union régionale d'Île-de-France de la CGT et l'Union régionale d'Île-de-France de la FSU, qui rejoignent aussi ce collectif, des associations d'usagers assez locales, et aller voir les usagers, expliquer ce qui est en train de se passer. Expliquer pourquoi le tarif va augmenter, expliquer pourquoi on n'est pas un retour à l'offre à 100%, expliquer aussi le processus de privatisation qui est en train d'être mis en œuvre à partir, en étant accéléré à partir de 2021, et donc d'informer, de faire une campagne d'éducation populaire en fait sur les transports, parce que nous on aime les transports et on ne veut pas les voir se détériorer, et aussi une campagne de revendication politique en disant qu'il est possible de faire autrement. Voilà, avec des choix politiques, en fait, on peut faire autrement, on peut à la fois améliorer les conditions de transport des usagers et les conditions de travail des agents. Mais tout est question de choix politiques. Et je crois que dans la société dans laquelle on vit, souvent, on a l'impression que les choses sont très éloignées. Et donc, l'idée, c'était de remettre ça au centre. On a fait 21 réunions publiques dans toute l'Île-de-France pour informer des distributions régionales journée par journée entre 150 et 200 gares en même temps, une pétition, et on a un site qui s'appelle stopgalère.fr parce qu'on continue à mobiliser, parce que moi je suis persuadée que la région finalement qui a la compétence des transports doit être au rendez-vous sur la question des transports et qu'elle ne l'est pas pour l'instant. Et évidemment je suis pour que ça change et pour que ça change de majorité politique, parce que ce n'est pas celle de la majorité actuelle en fait qui peut se dédire de ce qu'elle est en train de mettre en œuvre.
On va tout de suite écouter un autre extrait du sociologue Martin Thibault.
Pendant très longtemps, la RATP était vécue comme une entreprise, comme beaucoup d'entreprises à statut, pour des salariés de classe populaire, comme un moyen d'avoir un métier qui permettait d'avoir un métier plus intéressant, d'avoir un métier plus riche, d'avoir une forme de reconnaissance statutaire, et puis d'avoir aussi la possibilité d'avoir une sécurité de l'emploi qui protégeait durablement des aléas du marché du travail. Donc c'était une espèce de contrepartie. On travaillait le week-end, c'était un travail difficile, les niveaux de salaire n'étaient pas forcément très élevés, mais en échange, on avait un statut protecteur qui permettait de penser l'avenir, qui permettait d'acheter un logement, de pouvoir prendre un crédit, parce qu'on avait la sécurité de l'emploi.
Alors il n'y a pas longtemps, on pouvait voir dans les couloirs du métro de nombreuses affiches pour une campagne de recrutement à la RATP. Cela laissait ressentir des difficultés pour trouver du personnel, dont des conducteurs. Arnaud Mauclet, comment l'expliquer ? On en revient à cette question de dégradation du statut dont parle Martin Thibault.
Alors, il n'y a pas de difficulté à avoir des candidats. Il y a des difficultés à ce qu'ils aillent au bout du process et à ce qu'ils restent dans l'entreprise. Ça, c'est certain. La perte du régime pionnier de retraite y est pour quelque chose. La perte aussi du niveau de vie, puisque comme il l'indiquait, on avait des contraintes liées au service public, mais on avait des compensations, y compris financièrement, puisque à un moment donné, quand même, le salaire d'embauche était 2,5 SMIC. Hein. Donc, voilà. Mais par contre, chez nous, le dimanche, il n'est pas payé double. C'est, voilà, les nuits, elles ne sont pas payées double, etc. etc. Donc, effectivement, on a gardé les mêmes contraintes, mais on a plus d'avantages. Donc, un peu compliqué. Vivre dans Paris ou dans proche couronne est devenu très compliqué. Donc, quand on commence à 5h15 avant les transports en commun, ou quand on finit, c'est nous qui ramenons les derniers métros, hein. Les agents ferment leur station. S'il faut qu'ils aillent encore chercher un bus de nuit, marcher 30 minutes dans Paris et récupérer un bus de nuit pour rentrer 3 heures plus tard chez eux, compliqué aussi. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment. C'est vraiment un tout. Après, il y a aussi une volonté, à une période de l'entreprise, de casser les dynasties RATPiennes. C'est-à-dire que, voilà, embaucher le fils, la fille, le neveu, c'était pas bien vu. Il fallait, en fait, casser le collectif. C'est vrai qu'il y a eu toute une recherche, à un moment donné, de casser le collectif. Sauf que, bah, comme dans tout métier, hein, quand toute sa famille travaille le week-end, rentre tard le soir, travaille les jours fériés, bah, en fait, c'est un mode de vie, on s'y fait. Quand on le découvre, c'est bien sur le papier, on le fait un an, on se rend compte qu'on ne veut plus. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a, il y a vraiment un problème donc à recruter, vraiment, que les gens aillent au bout, à garder, ça c'est certain. Mais il y a aussi une volonté de l'entreprise d'attirer à moitié. C'est-à-dire qu'en fait, elle compte aussi sur ce flux. Voilà. C'est, elle a intégré que les gens allaient faire plusieurs métiers, et puis même, elle va peut-être un peu les pousser à faire plusieurs métiers, puisque avant, à la RATP, ce qui était bien et ce qui a été dit, c'est qu'on rentrait ouvriers non qualifiés, et on pouvait finir maîtrise, cadre. On a aujourd'hui des directeurs d'unités, alors il n'y en a plus beaucoup, mais il y en a eu presque légion, j'ai envie de dire, à une époque, qu'on commençait ce qu'on appelait à la pince. C'est-à-dire, voilà, ils étaient poinçonneurs dans une station. Ils étaient conducteurs de métro ensuite. Ensuite maîtrise, ensuite cadre. Voilà. Et on a eu des cadres comme ça, qui ont connu énormément de métiers dans l'entreprise. Et il y avait une vraie promotion interne. Ça aussi, aujourd'hui, il y a une volonté de casser un peu cette dynamique, malheureusement.
Il est venu le temps de marquer une pause musicale avec une chanson de Jacques Dutronc qui ne parle pas de métro mais évoque son odeur. On écoute Petit Jardin.
C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain, qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec une table et une chaise de jardin, avec deux arbres, un pommier et un sapin, au fond d'une cour, à la Chaussée d'Antin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui, au revers de son veston, portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta: de grâce, monsieur le promoteur, de grâce, préservez cette grâce, de grâce, monsieur le C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain, qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec un rouge-gorge dans son sapin, avec un homme qui faisait son jardin au fond d'une cour, à la Chaussée d'Antin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui, au revers de son veston, portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta: de grâce, monsieur le promoteur, de grâce, préservez cette grâce, de grâce, monsieur le promoteur, ne coupez pas mes fleurs. C'était un petit jardin qui sentait bon le bassin parisien, à la place du joli petit jardin, il y a l'entrée d'un souterrain, où sont rangés comme des parpaings les automobiles du centre urbain. C'était un
Une chanson qui n'encourage pas à la construction de parking, privilégiant donc plutôt l'utilisation des transports en commun. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui dans cet épisode de Travailleurs de l'ombre sur la RATP et ses conducteurs.
Travailleurs de l'ombre.
On est toujours en plateau avec Céline Malaisé et Arnaud Moclé pour parler de la RATP. Et on va maintenant aborder un sujet brûlant concernant les transports publics en Île-de-France. Et pour cela, on va écouter ce qu'en pense le chercheur Martin Thibault.
La plupart des transformations qui sont menées dans l'entreprise depuis tout début des années 90 sont des étapes successives qui vont vers l'ouverture à la concurrence. Sauf qu'elles ne sont jamais présentées de cette manière-là, en tout cas jusqu'à récemment. C'est des collectifs décentralisés, le fait de créer des entités indépendantes à l'intérieur de l'entreprise, qui est une bonne manière de pouvoir filialiser, le fait d'accélérer les cadences, de transformer les rythmes de travail, de transformer les modes de recrutement, mais également dans l'autre sens, d'avoir une forme de discrimination syndicale particulièrement importante. Toutes ces transformations cumulées, qui sont des transformations organisationnelles, des reprises en main managériales, des formes de discrimination syndicale et des formes de répression syndicales qui sont souvent le bras armé des réorganisations, vont toutes dans le même sens, d'une forme de pacification de l'entreprise pour pouvoir vendre par tranche ensuite à l'entreprise, à des entreprises privées ou à des concurrents, avec l'idée que l'entreprise est nettoyée de ceux qui sont perçus comme des agitateurs, qui sont souvent des gens qui défendent et qui sont en première ligne pour défendre le service public. Je pense ici aux militants syndicaux de l'entreprise, mais avec cette idée que toutes ces transformations sont faites dans un seul sens, et ce sens-là, on y arrive aujourd'hui.
Avant de revenir avec vous, Arnaud Moclé, sur cette histoire de pacification de l'entreprise évoquée par Martin Thibault, on va d'abord parler de l'ouverture à la concurrence. Alors, Céline Malaisé, comment se passe cette ouverture à la concurrence ?
Alors, elle se passe mal, et cette ouverture à la concurrence, déjà, elle est mal nommée, parce qu'en fait, c'est un processus de privatisation. À la fois la privatisation, évidemment, du salariat, parce qu'on, Arnaud pourra en parler, mais on passe de salariés, d'agents qui sont sous contrat de droit public, avec un statut, à des agents qui vont avoir un contrat de droit privé. C'est aussi une privatisation, en fait, de l'exploitation, parce que, alors en ce moment, on est dans la partie sur le mode bus. En réalité, le métro, le RER et les transiliens, j'aurais pu vous le dire jusqu'à aujourd'hui, vont arriver plus tard. Donc, une exploitation par des filiales de droit privé, des entreprises qui ont créé des filiales spécifiques, en fait, pour chaque ligne de transport, qui sont de droit privé. Et on a aussi une privatisation des profits. Donc déjà, ce processus, on le connaît sur d'autres secteurs. On l'a connu sur l'énergie. On le connaît aussi, par exemple, sur les autoroutes. Et les usagers savent très bien que plus on privatise, plus ça coûte cher aussi. Et les agents savent très bien, parce qu'il y a le syndrome un peu France Télécom, que quand on privatise aussi, ça dégrade de manière conséquente les conditions de travail. Pour l'instant, ce que l'on peut dire sur la région, et le chercheur avait raison, les choses se sont faites par petites touches, un peu de manière pointilliste, afin qu'on n'y mette pas beaucoup de sens. Sur la région, il y a toute la zone de bus de la Grande Couronne, qui est déjà privatisée, et nous, on comptabilise, dans le groupe politique que je préside, on comptabilise chaque semaine le nombre de courses fantômes. Donc, qui disparaissent, qui auraient dû avoir lieu, mais qui ne font pas lieu parce que il y a un défaut de matériel, donc un défaut de la maintenance, ou pas suffisamment de bus, tout simplement, et ou des fois un manque de conducteurs. Et chaque semaine, depuis septembre, on le fait, septembre 2024, chaque semaine, on a l'impression d'avoir un nouveau record. Cette semaine-là, on a compté 2200 courses qui sont supprimées, en sachant que la Grande Couronne est divisée en 36 morceaux et qu'on en a une grosse vingtaine qui publie les informations voyageurs. Donc on est vraiment à quelque chose d'un minima. Donc le service qui est rendu dans le cadre du processus de la privatisation est bien bien dégradé en fait pour les usagers. Et puis après, sur ces bassins de bus de la Grande Couronne, il y en a quasiment la moitié qui sont déjà mis en grève. Et des grèves extrêmement importantes pour les machinistes. La dernière grève, c'est une grève à Cergy-Pontoise. Ils ont fait 4 mois et demi de grève. C'est la plus grande grève dans les transports depuis mai 68. Et ils n'ont obtenu que le respect du code du travail.
Je rappelle juste pour nos auditeurs que les machinistes, ce sont les conducteurs de bus. Oui, alors Arnaud Moclé, en revenant à ce que disait Martin Thibault, c'est quoi concrètement aussi sur l'emploi ? Ça va passer à des statuts de droit privé pour ces nouveaux employés ou pour ces machinistes. Et ça va changer quoi aussi sur les conditions de travail des agents ? Martin Thibault l'a dit, c'est une marche qui est aussi enclenchée depuis de longue date, cette transformation.
Alors, dans l'immédiat, au lendemain du transfert, pas grand-chose va changer. Par contre, effectivement, ils vont perdre leur statut. Dans un premier temps, ils garderont un des, quand même des bénéfices du statut, ce qui est important à rappeler, c'est qu'on ne peut pas être licencié pour des raisons économiques. Et ça, quand on défend un service public, c'est super important. Parce que comme l'a dit Céline, en fait, ce n'est pas une mise en concurrence, c'est la création de monopoles privés sur des bouts du territoire. Puisque typiquement, le dépôt qui passe là, avec la société italienne ATM, les usagers n'auront pas le choix entre deux bus pour faire le même trajet. Ils auront la société ATM. Et une société privée qui vient prendre un monopole public, elle vient faire du fric. Voilà, elle vient pas pour le service public. C'est un peu compliqué. Donc, bah, très rapidement, nos collègues magistrats-receveurs de la RATP vont être confrontés à ça. Donc, bah, ça va être modification des temps de pause, augmentation de la durée de travail. Ça peut être renégociation des accords RTT. Voilà, en fait, tout pour, une fois de plus, faire de la productivité sur le poste financier majeur, le personnel.
Mais c'était une marche qui était enclenchée depuis longtemps, cette histoire avec les changements de management qu'il y a eu à la RATP depuis, on va dire, une trentaine d'années.
Ah oui. Alors ça, alors moi je suis rentré en 2000. Et en fait, depuis, on est en réorganisation permanente. Voilà. Alors, c'est une technique classique hein, de management. C'est-à-dire qu'on modifie en permanence les conditions de travail, les règles, les postes, les collectifs de travail pour isoler les salariés. Ensuite, on explique qu'effectivement, il faut faire des efforts en vue de l'ouverture à concurrence. Donc, on n'était que dans les années 2000. Hein. Et ça a continué. On est passé aussi sur une individualisation de la rémunération. C'est-à-dire qu'il y a une part du variable de la rémunération qui augmente par rapport à la part fixe de notre salaire statutaire. Donc on n'augmente plus le salaire fixe, mais par contre, on met énormément de parts variables soumises bien souvent à la production et au présentéisme. C'est-à-dire que si t'es malade, t'as pas. Donc, ce qui peut aussi quand même interroger sur est-ce que faire choisir des agents qui ont quand même des postes de sécurité, hein, machiste-receveur, conducteur de métro, même agent de station, hein, puisqu'ils ont aussi des rôles de sécurité, etc., etc. Est-ce que c'est une bonne idée de leur expliquer que s'ils veulent garder 30% de leur salaire du mois, bah, faut mieux qu'ils viennent travailler, même s'ils sont très malades, qu'ils trouvent des solutions plutôt que pas venir. Voilà, c'est compliqué. Mais voilà comment elle a pu faire. En fait, son objectif premier, ça a été d'isoler, casser les collectifs, comme j'ai un peu abordé. Ça a été par réorganisation permanente, individualisation de la rémunération, peur permanente aussi. Voilà, ça va nous arriver, il faut qu'on s'adapte, c'est obligé, avec un management très présent. Bah, qui est là quand même pour donner la parole de nos dirigeants, mais qui savent aujourd'hui, enfin qui savaient déjà, qu'ils seront aussi touchés de plein fouet par cette politique managériale.
Et en revenant à ce mot de pacification, Arnaud Mauclet, c'est quelque chose que vous, à la CGT, vous ressentez, un peu de la discrimination syndicale ?
Bah, la pacification, elle s'est faite malheureusement depuis toujours, hein. Puisqu'à partir du moment où on casse les collectifs et on individualise les rémunérations, donc on isole les agents, forcément, même si ils savent très bien venir vers nous hein, quand il y a des problèmes, de fait, la cohésion diminue. Donc ça a été plus facile pour l'entreprise, ensuite, de s'attaquer à des meneurs. Mais elle reste quand même prudente. Hein. Elle préfère parfois user d'autres moyens, c'est-à-dire que plutôt que d'isoler et taper fort, mais pourtant elle l'a fait en 2019-2020, il y a des camarades de justement machines receveurs sur lesquels elle a tapé très 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 fort, et au final c'est quand même le ministère du Travail qui a dit non, voilà, c'est bon, ils ont été au bout du bout, et c'est le ministère du Travail qui a dit non, vous n'allez pas les licencier. Donc ils peuvent aller très très loin, mais ils préfèrent souvent user d'autres méthodes et trouver plutôt des alliés, des partenaires sociaux dans l'entreprise, plutôt qu'attaquer frontalement un syndicat qui pourrait leur nuire.
Et ce sera le mot de la fin. Alors merci Céline Malaisé. Je rappelle que vous êtes présidente du groupe d'opposition La Gauche communiste, écologiste et citoyenne. Merci à vous aussi Arnaud Mauclé, secrétaire général de la CGT Ferré Métro RER, conducteur de métro sur la ligne 6 à Paris. Sans oublier de remercier Martin Thibault, enseignant-chercheur en sociologie, qui a accepté de répondre à nos questions. Et c'est la fin de cet épisode de Travailleurs de l'ombre, consacré au métier de conducteur à la RATP, réalisé par Thomas Yayani. Un grand merci à lui, mais aussi à vous de nous avoir écoutés. On vous laisse en bonne compagnie sur Radio Campus Paris.